Le Grand Forum des Tout-Petits vous propose les 1000 jours des Tout-Petits, une collection de podcasts destinée à améliorer votre connaissance de cette période si capitale des 1000 premiers jours de vie. Je suis le docteur Gérald Kierzek, médecin et chroniqueur médical, et j'ai le plaisir d'aborder avec vous, à travers d'interviews exclusives, les avis et conseils d'experts reconnus pour leur connaissance, mais aussi leur expérience en matière de prévention précoce. Alors, joyeuse écoute. Bonjour Umberto Simeoni.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de pédiatrie et du laboratoire de recherche à Lausanne et vous êtes, j'allais dire aussi, surtout et depuis le début, président de l'association le Grand Forum des Tout-Petits. On va parler de l'impact de l'environnement sur le développement de l'enfant. Justement, vous êtes pédiatre, hein, vous êtes enseignant-chercheur, auteur de nombreuses publications scientifiques et vous coordonnez, c'est votre domaine de recherche, les liens entre l'environnement précoce hein, de la grossesse avant même la conception de l'enfant et puis la santé à l'âge adulte. Et ça, c'est capital et c'est ce fameux concept des 1000 premiers jours. Pourquoi ces 1000 premiers jours sont si importants dans la vie ?
Mais en fait, ça n'est pas très surprenant. C'est parce que le développement même de l'enfant ne se fait pas simplement par une lecture, je dirais, presque mécanique du génome, du code génétique, mais il se fait en intégration avec l'environnement. Et donc, lorsque l'enfant se développe, il va capter par l'intermédiaire de sa maman, de ses parents et de façon directe après sa naissance de l'environnement, les signaux qui viennent de cet environnement, qui est l'environnement, on va lui donner un sens très large, c'est-à-dire ça n'est pas que l'environnement écologique, que celui, le sens qu'on utilise d'habitude, c'est aussi l'environnement relationnel, affectif, les stimulations, la nutrition, l'exposition éventuelle à un stress des parents ou à des toxiques, comme les perturbateurs endocriniens, ou des toxiques absorbés finalement par les adultes. Tout ceci, l'enfant va le recevoir comme des signaux finalement de l'endroit et où va se dérouler sa vie et de l'environnement dans lequel elle va se dérouler. Et en se développant, grâce notamment à des mécanismes moléculaires qu'on connaît un peu mieux sous le nom d'épigénétique actuellement, eh bien il va mettre en place son fonctionnement physiologique, le fonctionnement de ses organes, les régulations surtout du niveau de fonctionnement de ses organes en fonction de ces signaux de l'environnement. Et donc forcément, ce qui se passe au début de la vie, et notamment dans ces fameux 1000 jours entre la conception et le deuxième anniversaire de la vie de l'enfant, tout cela va en quelque sorte donner la forme à la trajectoire, un cadre de trajectoire que pourra suivre la santé de cet enfant et sa vie ultérieure. En tout cas, elle va l'influencer, la moduler très tôt.
Et ça détermine des maladies, par exemple, à l'âge adulte. Ça veut dire, parce que le début des 1000 premiers jours, c'est, vous venez de le dire, la conception, c'est-à-dire avant même que l'enfant soit conçu, avant même que l'enfant soit né, une espèce de prédétermination de ce que sera sa vie après et son état de santé.
Alors, ça n'est peut-être pas le meilleur mot, parce que détermination, ça a un côté absolu, irréversible, pas du tout. Mais ça va déterminer des facteurs de risque, ça va moduler, conditionner en quelque sorte ses trajectoires de vie et sa santé, notamment le risque d'avoir plus tard à l'âge adulte de développer des maladies par exemple cardiovasculaires ou métaboliques comme le diabète ou l'obésité dont on parle beaucoup en ce moment, mais bien d'autres problèmes aussi. Il aura un terrain qui aura été mis en place très tôt. Et bien sûr, d'autres facteurs interviendront, ne manqueront pas d'intervenir pour déterminer sa santé en tant qu'adulte. Mais ce terrain qui se met en place dès la naissance, nous savons aujourd'hui qu'il est extrêmement important.
Ça veut dire qu'on a une espèce de capital santé. Alors, on l'a bien compris, on va y revenir un peu en détail. Il n'y a pas que la génétique, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, hein, ce que vous appelez l'environnement, l'hygiène de vie en général, l'alimentation. Mais on peut vraiment parler de capital santé. On connaît bien avec la peau, par exemple, et le capital soleil. C'est un peu la même chose. Et on prépare ce capital santé.
Exactement. C'est exactement ça. L'enfant a un capital où tout est possible au départ. Et ce capital, il faut absolument le préserver toute la vie et lui donner la meilleure orientation possible. C'est exactement ça.
Comment je fais en tant que futur parent pour, et c'est le souhait de tous les parents, de donner le plus gros capital santé, le plus gros capital à mon enfant ? Qu'est-ce qui va décider ?
Il y a des choses qu'on peut faire qui sont assez simples et sans tomber dans une sorte de dogme qui rendrait la vie impossible à tout le monde si on cherche une vie absolument parfaite, saine, un mode de vie irréprochable. C'est presque impossible dans notre civilisation actuelle. Mais on peut faire des efforts. Et surtout, si on a la chance finalement d'être en projet d'enfant, on peut commencer avant la conception parce que certaines marques peuvent être transmises à l'enfant au moment même de la conception qui traduisent finalement l'exposition à l'environnement des futurs parents eux-mêmes. Et donc autant commencer tôt, nous savons que c'est aussi ce qu'il y a de plus efficace, mais en adaptant et en adoptant un mode de vie qui est peut-être le plus proche possible de ce qui serait un mode de vie naturel et sain. Ça peut concerner, c'est suivant les cas. Si on est un peu en surpoids, alors il ne s'agit pas forcément de pouvoir perdre du poids, mais d'optimiser par exemple son alimentation. On a beaucoup de règles qui ont été proposées pour ça ou de conseils. On peut augmenter son activité physique. Si on a tendance à être fumeur ou à peut-être utiliser d'autres substances, c'est le moment d'interrompre cela. Essayer de réduire le stress dans sa vie quotidienne, ou du moins la perception qu'on a de ce stress, parce que c'est parfois plus facile d'agir sur la perception du stress que sur la cause même, parce que celle-là, si elle est, elle est liée parfois à des questions à des points d'environnement qu'on ne peut pas modifier. De même, si on habite à côté d'une usine qui produit ou d'un axe de circulation extrêmement important qui produit des substances toxiques, eh bien, c'est moins facile à modifier. Mais ce qu'on peut modifier sans tomber dans une pression excessive, hein. Être parent, c'est en réalité très, très simple si on ne peut pas tout changer. Mais le rôle d'un parent, c'est de donner, avant tout, de donner à l'enfant et de lui permettre de s'exprimer, de lui en donner les moyens, c'est-à-dire lui donner une enveloppe protectrice autant que possible, surtout sur le plan relationnel et affectif et des stimulations et de ses besoins de base. Le reste, nous ne vivons pas dans un monde parfait. Et un enfant sait très bien, justement, se développer en s'adaptant à tout l'environnement. Il faut le laisser se développer, s'exprimer, simplement le protéger, l'accompagner, le soutenir.
Et ça, dès la conception, et les futurs parents, les papas, les mamans, ces actions concrètes, elles sont extrêmement importantes. Ce bien-être et cette santé, c'est déjà pour favoriser la conception, c'est ça. Et ça va ensuite permettre d'avoir cette conception qui se fait, cette grossesse, ce développement in utero qui se fait de manière favorable et positive.
Tout à fait. Ça permet en même temps d'assurer les meilleures chances de bon déroulement de la grossesse. C'est en général le cas, mais nous savons que certaines complications de la grossesse sont influencées par le mode de vie antérieur, par ces stigmates de l'environnement. Donc on assure une meilleure santé à la maman pendant la grossesse, et puis la santé des deux parents va s'en trouver améliorée. Ils en profitent finalement pour aller mieux, pour être en meilleure forme et vivre plus heureux, plus sereinement. Donc, et tout ça, bien sûr, ne sera que bénéfique vis-à-vis de l'enfant quand il sera là, ou même avant sa naissance, puisqu'il perçoit beaucoup de choses déjà dans le ventre de sa maman.
Et ces actions individuelles, on peut et on doit bien sûr les continuer après la naissance, j'imagine. Quelques conseils pratiques sur l'alimentation, la gestion du stress, sur l'exposition. Vous avez employé un mot qui fait peur à tout le monde, un perturbateur endocrinien. Comment on fait concrètement pour les quelques mois, les premiers mois de la vie, pour donner cette enveloppe protectrice justement ?
Alors, dans les premiers mois de la vie de l'enfant, l'alimentation, par exemple, nous savons qu'il y a une alimentation qui est très protectrice, c'est bien sûr l'allaitement maternel. Ça, c'est un point, si la maman peut et choisit ce mode d'allaitement, c'est vraiment un plus pour l'enfant ça c'est démontré scientifiquement, qui va lui donner toute une série d'avantages en santé bien plus tard, et d'ailleurs d'avantages aussi en santé pour la maman, puisque les maladies ultérieures éventuelles qui peuvent toucher une personne adulte, certaines sont influencées par le fait qu'une femme est allaitée ou n'ait pas pu le faire. Ça, c'est un élément clé. Puis ensuite, c'est notre comportement à nous de parents qui, quelque part, devrait être. Il faut que nous soyons bien conscients que si nous pouvons dire à un enfant ou lui faire comprendre ce que nous souhaitons, si nous ne sommes pas, j'allais dire, exemplaires. Au moment des repas, que nous n'avons pas, nous, une attitude qui est peut-être optimale, eh bien, l'enfant, il va le voir et c'est ça qu'il va retenir. Par mimétisme, il va faire pareil. Donc, je crois que c'est une bonne occasion pour les adultes aussi, ben, quelque part, d'essayer d'optimiser les petits défauts de notre société que beaucoup d'entre nous ont acquis. Et de permettre à l'enfant justement d'avoir les bonnes stimulations pendant cette période sensible. Pour les perturbateurs endocriniens, c'est effectivement un problème que nous y sommes tous exposés. Donc il y a toute une série de manières de travailler là-dessus. Mais au niveau individuel, il y a des petites choses qui peuvent faciliter la vie. C'est des conseils pratico-pratiques, mais c'est aérer notamment la chambre de l'enfant très largement pendant 10 minutes tous les jours. Essayer d'utiliser des produits pour la toilette qui sont plutôt solides que liquides. Et il y a de même éviter peut-être les produits inutiles ou cosmétiques. Si on choisit des produits, il y a des apps qui permettent de distinguer ceux qui ont une charge importante en substances perturbatrices par rapport à d'autres. De même pour les produits d'entretien de la maison, essayer d'éviter les produits, typiquement les produits chimiques. Hein, et ça, c'est pour ce qui est au niveau domestique. Après, il y a toutes les causes externes et ça, c'est beaucoup plus difficile d'agir.
Mais au niveau individuel, c'est forcément plus cher d'être, j'allais dire, protecteur en termes d'alimentation, en termes de produits, ou c'est simplement arriver à dépister avec des choses relativement simples, parfois pas chères, qui sont des bons réflexes?
Non, je pense qu'on peut tendre, adopter un style de vie plus sain sans augmenter les dépenses de la famille et de façon significative en s'informant, et il y a toute une série d'actions qui vont être entreprises, notamment en France, grâce au plan pour l'enfance qui a été adopté par le gouvernement français, qui est soutenu par le président de la République. C'est une grande chance et il y aura beaucoup d'actions d'information, de formation des professionnels. Donc on peut essayer d'adopter ces mesures sans que ce soit trop coûteux. Il reste aussi peut-être à agir sur l'alimentation, effectivement. Alors l'allaitement maternel, effectivement, c'est certainement beaucoup moins coûteux. C'est un avantage évident. Mais c'est après la diversification que c'est vrai que tant que des aliments comme les fruits et les légumes qui sont vraiment conseillés et qu'on ne mange pas en quantité suffisante, tant qu'ils seront plus chers que des aliments plus palatables, plus agréables, mais forts en énergie, denses en énergie, comme les glucides, les sucres, c'est vrai que là, on a un problème qui est sociétal et ça coûte cher de bien manger. Mais je crois que des efforts sont faits, ces points sont bien compris, en particulier, je le répète, en France, et que des efforts seront faits pour qu'il n'y ait pas d'inégalité, de perte de chance au départ de la vie sur le plan social, autant que possible de les réduire.
Et puis les circuits courts qui permettent de s'alimenter avec des produits de saison pas loin de chez soi et c'est pas forcément plus cher. Et puis les industriels, j'imagine, qui font des efforts pour moins transformer, moins ajouter d'additifs, justement. Ce sont des bons efforts ?
Je crois que ce sont des efforts qui sont actuellement bien compris par tous et partagés dans tous les secteurs professionnels. Tout le monde fait un effort et je crois que ce que nous vivons actuellement dans le contexte de l'épidémie Covid le montre bien. Il y a un mouvement. On a bien compris qu'on pouvait avoir un effet sur la planète, sur la santé de la planète cette fois, en modifiant nos modes de vie. Et comme vous le dites, en achetant local, en essayant de revenir à des choses qui sont de simple bon sens dans nos comportements, Ces moyens-là sont extrêmement simples et relativement faciles à appliquer, mais ça demande des changements d'habitude, des changements de références sociales aussi, de symbolique sociale, qui, eux, ne sont pas évidents. Et c'est pour ça qu'il faut bien l'expliquer et que tout le monde puisse comprendre et s'approprier l'intérêt de ces changements. Je crois que les jeunes générations actuelles l'ont parfaitement compris. Il y a un co-bénéfice en modifiant son style de vie pour sa propre santé, celle d'un enfant, de son enfant, si on est justement dans cette situation, et celle de la planète.
Il y a les comportements individuels, mais il y a aussi les actions politiques, hein, de santé publique. Alors, vous parliez de l'État français qui a pris un certain nombre de conscience et d'actions. Où est-ce qu'on en est justement sur le plan politique? Et puis, je crois qu'il y a certaines initiatives. Je le disais, vous présidez le Grand Forum des tout-petits. Il y a un rôle aussi de lobbyiste pour que ça aille dans le bon sens. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, je crois que tout le monde travaille dans le même sens. Moi, j'ai la chance d'avoir pu en quelque sorte participer à ces efforts et à la fois d'abord par mon travail de pédiatre et notre recherche qui porte sur cette thématique depuis une bonne quinzaine d'années, mais surtout au-delà de ces actions-là individuelles ou scientifiques, c'est l'application qui compte, c'est l'implémentation. Et là, effectivement, d'une part, la politique de santé des pouvoirs publics est extrêmement importante et le Grand Forum des tout-petits a pu avoir un rôle, je pense, significatif dans la sensibilisation également des pouvoirs publics, puisqu'il a été là très tôt, en 2013, pour porter ce concept, avec pour mission de le faire en tant que think et do tank auprès des pouvoirs publics, mais aussi du grand public. Et le Grand Forum, qui est donc du milieu associatif, et il y a beaucoup d'autres associations d'ailleurs qui agissent, qui sont actives dans ce domaine, il a aussi fourni de façon multidisciplinaire, parce qu'il est constitué d'équipes qui rassemblent toutes sortes d'acteurs. Il n'y a pas que des professionnels de la santé ou de la nutrition, il y a des personnes des sciences humaines, il y a des acteurs professionnels, il y a des représentants de l'industrie, c'est très fécond. Et donc, on a pu construire, porter un message, des manifestes qui ont été repris par dizaines de sociétés savantes, et puis surtout produire des outils à la disposition soit des personnes, du public, pour mieux appliquer ces concepts qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pas facile, on peut comprendre que c'est important, mais comment le faire, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a des outils qui sont disponibles sur le site de l'association, et aussi des outils pour les professionnels qui sont également sur la partie professionnelle de ce site, pour permettre à tous de relayer ce message, de relayer surtout un message cohérent également.
J'allais dire un message cohérent, un message positif. Je voudrais revenir sur cette notion d'épigénétique, parce que c'est vrai que on pense à tort, hein, qu'il y a la génétique et puis une fois que c'est prédéterminé, c'est terminé. Et vous avez tout à l'heure parlé d'épigénétique. On peut en dire quelques mots. Ça balaye l'idée de il y a l'inné et puis il y a l'acquis. Finalement, c'est plus compliqué que cela.
Non, c'est pas plus compliqué que cela, effectivement. Il y a l'inné, c'est la génétique, et celle-là, on ne peut pas la changer, du moins pour l'instant. On a tous en tête les espoirs que portent des techniques comme le genome editing et qui peut-être permettront un jour d'agir de façon plus simple sur cette composante-là. Mais ça, on l'a, c'est notre code génétique, et on le garde. Et puis, il y a l'acquis, qui, lui, provient donc par définition de l'extérieur, de l'environnement. Et c'est là que, il faut finalement, si on réalise que ce qui se passe pendant ces premiers 1 000 jours va conditionner, influencer ce qui va pouvoir arriver plus tard, 50, 70 ans plus tard peut-être, c'est qu'il y a une mémoire quelque part. Et cette mémoire, on l'a identifiée depuis pas très très longtemps, c'est effectivement l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est un mécanisme moléculaire. C'est comme le génome, c'est comme les gènes, à part que ce sont des petites modifications moléculaires en surface des gènes, mais qui sont liées à l'environnement, qui sont produites par l'environnement. C'est là que s'enregistrent les signaux de l'environnement dont je parlais tout à l'heure. C'est tout autour du génome, à l'intérieur du noyau de la cellule, et ça vient moduler le niveau de travail de chaque gène, le niveau d'activité de chaque gène, sans changer la séquence de l'ADN, qui est finalement ce qui définit les gènes et le génome. Donc sans changer l'inné, mais l'épigénétique fait travailler l'inné à des niveaux adaptés qui dépendent de l'environnement. En fait.
Et donc l'environnement permet finalement soit d'appuyer sur le frein, soit d'appuyer sur l'accélérateur.
Exactement. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et du coup, c'est réversible, c'est pas irréversible, c'est flexible, c'est dynamique.
Et donc on peut toujours changer les choses et il n'y a pas de fatalité. Dans ce frein et cet accélérateur, il y en a un qui est important aussi, c'est le côté psychologique. Est-ce que ça joue ?
Énormément, énormément. Je pense que de façon générale, le cerveau est extrêmement impliqué dans ce phénomène des 1000 jours qu'on appelle aussi conditionnement ou programming. Nos émotions, nos relations avec les autres, le stress notamment, le stress psychologique, le stress social, la vulnérabilité sociale, la précarité, les conditions de violence. Vous savez, quand on dit, malheureusement, nous avons toujours dans tous les pays, il y a encore des cas de maltraitance de l'enfant. Et on se rend compte que parfois, ça se passe de génération en génération dans certaines familles, malheureusement. Et ce lien, on sait aujourd'hui qu'il est probablement de nature épigénétique, pas génétique, mais les marques épigénétiques qui se mettent en place au début de la vie, nous savons que, paradoxalement, elles peuvent aussi être transmises sur quelques générations. Et c'est la même chose qui se passe quand des parents sont en projet d'enfant et puis en période préconceptionnelle, avant la conception, peuvent essayer d'optimiser les conditions d'arrivée de l'enfant. Donc les marques peuvent être transmises et donc le stress en tout cas laisse des traces chez la personne qui l'a vécu dans son enfance, directement ou indirectement parce que ses parents étaient stressés et vivaient dans des conditions peut-être difficiles. Et je suis d'accord que ça, c'est pas toujours facile à changer, mais il faut le savoir et il faut travailler dessus. Les parents, les personnes qui ont vécu un stress important au début de leur vie, eh bien, elles peuvent en garder des traces et avoir finalement une personnalité, un comportement, un vécu psychologique qui est influencé par cela.
Un environnement aimant et bienveillant, en mot de la fin, ça pourrait être ce qui permet cette enveloppe protectrice ?
Absolument, c'est exactement de cela. Hein. Il n'y a pas de bonne façon d'être parent, notamment, ou de donner les meilleures conditions à un enfant. Il y en a des multiples, c'est la diversité humaine. Donc, il faut simplement une approche effectivement bienveillante et puis, quelque part, éclairée en connaissant un peu ces notions et en pouvant s'appuyer sur des outils pour simplement les traduire dans la réalité quotidienne. Mais c'est tout à fait ça.
Et ce bien-être, il est au bénéfice de tous, y compris des parents, y compris des grands-parents et des enfants ?
Absolument. C'est un bénéfice partagé. Ça se transmet donc de génération en génération. Et puis, on a évoqué tout à l'heure que c'est en plus au bénéfice de tous, parce que c'est au bénéfice de la santé publique. Donc, toutes les maladies chroniques qui causent la plus grande partie des coûts en santé, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les dépressions, ces maladies sont influencées par le début de la vie. Et agir tôt permet aussi, le bien-être d'une population. Et on l'a vu aussi il y a quelques instants de la planète, les causes sont les mêmes. Et donc, en agissant tôt, on peut avoir l'espoir de les contrôler mieux.
Merci Umberto.
Merci à vous.
Vous venez de terminer la joyeuse écoute d'un podcast de la collection des 1000 jours des tout petits, qui fait partie du programme des rencontres du Grand Forum. Vous avez aimé ? Alors n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant à cette série de podcasts, en partageant vos écoutes et en découvrant le reste de nos épisodes. Et puisque les rencontres du Grand Forum ne se limitent pas au podcast, rendez-vous sur la plateforme des rencontres qui vous donnera accès à des contenus originaux et diablement efficaces pour améliorer vos connaissances.